comme c'est quand même une société extrêmement clivée, il y a sans doute, en fait, déjà, avant même qu'il y ait des lieux spécifiques de rencontres ou des moments particuliers, il y a sans doute des personnes qui permettent ces rencontres, des sortes de médiateurs. On pourrait essayer d'imaginer quelles sont les professions ou quelles sont les personnes qui, par leur fonction, ont pu se retrouver, en fait, en mesure ou en situation de faire du lien. Alors, déjà, enfin, je sais pas, on peut imaginer les sages-femmes, par exemple. En général, dans la période coloniale, elles étaient surtout européennes, mais elles avaient accès, elles pouvaient entrer en contact avec les femmes algériennes, par exemple. On peut imaginer, je dis pas que, enfin, c'est des contacts, hein, c'est pas des relations bilatérales et égalitaires, hein, on est d'accord là-dessus, hein, mais déjà, c'est des relations. Du coup, je pense aussi aux écrivains publics, par exemple, qui se retrouvent devant les postes, devant les mairies, pour aider des personnes qui éventuellement ne maîtriseraient pas la langue de l'autre, mais auraient besoin d'accomplir des formalités ou d'écrire des lettres. Donc ça peut être des personnes qui entrent en contact, se trouvent en position de médiateur, en personne frontière. De même que, je sais pas moi, les syndicalistes dans l'entre-deux-guerres, les prostituées pendant toute la période, ou bien... les soldats pendant les deux guerres mondiales qui combattent en général à côté ou côte à côte dans une certaine limite, les clubs de sport qui se développent aussi dans les années 30. Voilà, ça c'est peut-être des moments et des personnes qui font la médiation entre les groupes. Alors, à ceci près que c'est extrêmement difficile de travailler là-dessus parce que c'est des personnes qui en général laissent très peu de traces. Les écrivains publics, c'est un défi pour trouver des archives sur eux. C'est compliqué. À part à partir du moment où ils sont surveillés par l'administration coloniale, et encore, c'est pas très intéressant. Pour m'être intéressée à la question, c'est extrêmement difficile à saisir. Mais bon, c'est ça, en fait, la limite de cette histoire sociale de l'Algérie coloniale il y a une centaine d'années, c'est qu'on a du mal à avoir du matériau pour la raconter, en fait. Il y a un cas, peut-être, un peu documenté, qui a été travaillé par un historien qui s'appelle Alain Messaoudi. C'est, par exemple, le cas des interprètes. Au moment de la conquête, en fait, en 1830, les Français et les militaires ont tout de suite eu besoin, au-delà du fait qu'ils voulaient soumettre un territoire par la force, ils ont eu besoin de parler la langue arabe et de communiquer avec les populations qu'ils entendaient soumettre. Et donc, ils ont dû faire appel à des interprètes qui étaient de trois groupes différents, si on veut essayer de... Il y avait d'abord les interprètes qui avaient fait la campagne d'Égypte et qui étaient revenus dès 1802 s'installer dans le sud de la France, en général vers Marseille. Et donc on a fait appel à eux pour venir épauler les militaires en Algérie. Il y avait aussi tout un groupe de personnes qui, dans cette période-là, dans les années 20, 1820, faisaient partie de cette jeunesse acquise à la mode romantique, en général issue de familles aisées, qui vivaient à Paris. Et qui ont eu envie d'étudier l'arabe parce que c'était un peu la mode, parce que c'était. Et donc il y a des gens qui ont fait des études aux langues orientales, notamment sous la direction de Sylvestre de Sacy, et auxquels on a fait appel en 1830. Alors le problème, c'est qu'ils ont été assez peu adaptés au terrain pour différentes raisons, mais surtout parce qu'ils avaient appris l'arabe classique et qu'ils n'étaient pas en mesure de parler le dialecte algérien. Donc là, c'est. Ça a raté un peu. Et le troisième groupe, c'était aussi qu'on a fait appel à ce moment-là à des personnes qui vivaient en Tunisie avant 1830, et notamment des Européens et des Juifs qui vivaient là et qui sont venus en Algérie. Sauf que les militaires, en fait, assez vite, on se sont méfiés, ont jugé que ces interprètes étaient peu fiables et ils ont essayé d'instituer une formation des militaires eux-mêmes à l'arabe, en se disant que c'était toujours mieux si eux-mêmes parlaient l'arabe plutôt que de passer par des intermédiaires dont ils se méfiaient. Bon, là, c'est peut-être c'est un peu décevant. En fait, assez vite, on se rend compte que pendant toute la période coloniale, ces militaires et ces administrateurs chargés de faire régner l'ordre ou d'administrer les communes mixtes, notamment, où vivait la majeure partie des populations algériennes, parlaient assez peu l'arabe. Et puis, par exemple, en 1911, si j'ai les chiffres, On a sur 261 administrateurs, seulement 62 qui touchent la prime pour connaissance de l'arabe, sachant que ces administrateurs étaient censés trancher les litiges, écouter les plaintes de leurs administrés, etc. etc. Donc ils avaient du coup encore des interprètes, mais on peut dire quand même que cette politique volontariste d'apprentissage de l'arabe était quand même assez limitée. Bon, juste pour terminer sur cette question des personnes frontières, mais là je m'étends pas sur cette question parce que je pense que ce sera l'objet du prochain cycle de conférences de l'Université Populaire. Il y a bien entendu ceux qui connaissent le mieux les deux cultures, entre guillemets, c'est bien sûr les émigrés algériens qui viennent par exemple en France métropolitaine bien avant 1945. Il y a une émigration assez forte déjà dans les années 10, 20, 30. Et donc vous avez en fait bien sûr des populations qui connaissent et maîtrisent les codes de la, entre guillemets, culture française et qui vont aussi travailler dur, bien sûr, pour envoyer de l'argent à leur famille et les transferts d'argent sont assez importants, simplement, puisque vous avez dans le milieu des années 50 plus de 38 milliards de francs qui sont transmis, qui sont envoyés de France métropolitaine par des travailleurs algériens à leur famille. Et on peut donc imaginer que ça a quand même un impact assez fort et que ça transforme de manière profonde, fondamentale, la vie aussi dans les campagnes algériennes. Je crois que, en gros, j'ai pas trop les chiffres en tête, mais en moyenne, la part du salaire envoyé par un émigré algérien dans l'entre-deux-guerres à sa famille, ça double le salaire que l'ensemble de la famille. C'est équivalent au salaire que l'ensemble de la famille a accumulé avec les travaux de la terre pendant la même année, si vous voulez. Donc ça permet d'acheter un petit lopin de terre, d'acheter un petit commerce. Ça change radicalement le niveau de vie des populations sur place aussi. Mais bon, je laisse Marie-Claude Blanchaléard, qui animera le prochain cycle de conférences sur l'émigration, vous parler de ça plus précisément. Donc, pour terminer, peut-être ce que je pourrais faire, c'est juste donner, je ne sais pas si j'aurai trop le temps, mais au moins quelques-uns, quelques exemples de rencontres ou de lieux qui pourraient favoriser ces rencontres. Et je pensais par exemple en premier lieu à l'école, puisqu'on en avait un peu parlé la semaine dernière. Et assez vite, comment dire, on se rend compte que finalement l'école n'est pas tant que ça un lieu de rencontre. Alors, à ceci près que Sylvie Thénau vous a dit la semaine dernière que il y a bien entendu des classes dans lesquelles, sur le même banc d'école, on a bien sûr des petits-enfants européens et des petits-enfants algériens, ça ne fait aucun doute, notamment dans les villes. Mais quand même, si on regarde les chiffres, c'est assez édifiant. Vous avez en fait, dans les années 50, plus de 80% de la population algérienne qui ne sait pas lire et écrire. Et c'est quand même... hommes et femmes comprises, du coup. Mais du coup, vous avez une petite minorité d'Algériens qui, dans l'entre-deux-guerres, ont pu aller à l'école. Même si ça, quand même, à partir des années 20, des années 30, ça s'accélère, et ça s'accélère encore plus dans les années 50, avec la pression de la guerre d'indépendance qui a favorisé un certain nombre de réformes in extremis. Mais du coup, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que vous avez globalement en dehors des villes des classes qui ne sont pas toujours mixtes. Alors déjà, elles sont pas mixtes hommes-femmes, mais elles sont pas non plus toujours très mélangées. Et vous avez par exemple cette photo qui est dans l'ouvrage, pardon, je le remettrai après, de Charles Robert Ageron, qui est une petite classe, qui est une grande classe en l'occurrence, d'enfants algériens au début du XXe siècle. Et qui ressemble, c'est assez intéressant cette photographie parce que elle dit bien à la fois le poids des normes métropolitaines et en même temps les spécificités du fait colonial, si vous voulez. Vous avez une salle de classe avec des petits bancs, au fond, je sais pas si vous voyez en haut, une affiche avec le système métrique, une sorte de vitrine. Il me semble que
là tout en haut, on dirait la Tour Eiffel sur une affiche.
Vous avez voilà les tableaux. Enfin, il y a quand même un dispositif spatial qui est en partie commun à celui qu'on retrouverait dans une école en métropole. Et en même temps, cette classe est remplie de petits enfants algériens qui portent la chéchia ou parfois le burnous, qui Donc je trouve que c'est assez intéressant avec les instituteurs qui portent eux le costume de l'institut de hussard noir, quoi, enfin de la République, et donc on a là un bon exemple, je trouve, de ce qu'est la colonisation de l'Algérie, c'est-à-dire on reprend tout un tas de normes métropolitaines et on les applique et on les transpose, et en même temps on a un fait colonial. Enfin, en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que c'est une classe surpeuplée avec peut-être 90 petits-enfants, aucune fille. Et ces écoles-là coexistaient. Alors ça, c'est l'école indigène, mais sur le modèle de l'école française. Et elles coexistaient avec, bien sûr, des écoles coraniques qui continuent d'exister pendant toute la période et auxquelles se rendent les enfants algériens, soit tôt le matin, soit tard le soir après la classe française, soit le jeudi. Et qui continue d'exister. Ça, c'est pour l'accès à l'enseignement primaire, qui, je vous le disais, est de plus en plus massif à partir de l'entre-deux-guerres. En revanche, pour l'accès à l'enseignement secondaire, c'est beaucoup plus minoritaire. Vous avez 6 étudiants algériens à la faculté d'Alger au début du siècle, au début du XXe siècle. Il y en a quand même 6... Alors, je l'ai mis là. Il y en a plus de 600 dans les années 50, avec aussi des étudiants algériens qui partent étudier à Paris ou dans les grandes universités du monde arabe, et notamment à la Zitouna à Tunis, où là, il y a des effectifs assez importants. Mais ça reste quand même des minorités, et c'est ce que je vous disais, il y a vraiment le coup d'accélérateur de l'effort fait en faveur de la scolarisation des populations algériennes, c'est après 1945. Autre, je m'étends pas, c'est un peu frustrant, mais si vous avez des questions, on peut y revenir. Autre exemple peut-être de lieu de rencontre qui en fait n'en est pas un, c'est le café. Le café mort notamment, puisque vous avez en fait des cafés qui existent qui préexistent à la colonisation et qui continuent d'exister pendant la période coloniale, et ces cafés-là sont... Pourquoi je dis que c'est pas des lieux de rencontre pleinement ? Parce que ces cafés-là, déjà, excluent les femmes. C'est des cafés uniquement masculins. Et aussi, c'est plus tacite, c'est moins direct, mais les Européens ne se rendent que très rarement dans ce type de café. Donc c'est en fait... mais c'est un lieu assez intéressant qui se transforme au cours de la période coloniale, qui a été très bien étudié par un historien qui s'appelle Omar Carlier, et c'est vraiment une étude magnifique qu'il a faite, parce qu'il montre en fait comment ce lieu, le dispositif spatial de ce lieu, va se transformer à mesure qu'avance la colonisation, puisque le système des nattes et des meidas est remplacé progressivement par des tables et des chaises, et alors qu'avant on venait prendre son café dans des postures accroupies ou semi-allongées, qu'on fumait et que on buvait le thé sur ces espaces-là, progressivement, c'est remplacé par un système de chaises, de tables, parfois le comptoir. Ici, on voit un comptoir en fait qui apparaît. De même que la façon de faire le café se transforme aussi, et que dans l'entre-deux-guerres, on a aussi la possibilité de prendre son café debout au comptoir, et c'est l'express a remplacé en fait le système des braises dans lequel on faisait bouillir le café. Donc là, vous avez une transformation de l'espace du café, une transformation de la posture même des corps, si vous voulez, et en même temps, c'est une sorte de mimétisme peut-être du café européen, mais un mimétisme qui serait un mimétisme de la démarcation. C'est pas le café européen du tout. On a encore des odeurs différentes. On boit pas la nisette ici. Ici, on boit le café ou on boit le thé. On mange éventuellement le sfinch, qui est le beignet, et ça reste un lieu différent qui, parce qu'il est un peu réservé aux hommes algériens, va dans l'entre-deux-guerres être un lieu très intéressant de sociabilité et de politisation en fait. Et c'est ça qu'étudie Omar Carlier, puisqu'il montre que progressivement ce lieu est investi par la jeunesse algérienne, puisque auparavant en fait c'était quasiment impensable pour les jeunes hommes algériens de venir au café avant d'avoir acquis un statut, avant d'être marié et d'avoir un emploi en gros. Et si dans l'entre-deux-guerres c'est toujours impossible pour un jeune Algérien de venir dans le même café que son père. En revanche, si le patriarche n'est pas là ou s'il y a un autre café en face, ben, les jeunes Algériens investissent ces lieux qui deviennent en fait des lieux de sociabilité sportive, puisque c'est le moment où se développent les clubs de foot, par exemple, qui devient aussi un lieu de discussion où circulent les rumeurs, où circulent les nouvelles, et ça devient ensuite le QG, enfin, le lieu de rassemblement ou d'arrivée des manifestations politiques, et pendant la guerre d'indépendance, c'est le quartier général d'un certain nombre de mouvements politiques clandestins. Donc c'est un lieu intéressant vraiment qui illustre bien les transformations anthropologiques de la société algérienne pendant cette longue période coloniale. Donc peut-être qu'il faut que je m'arrête. Je voulais aussi vous parler des rencontres dans le monde du travail, mais si vous avez des questions, je vous propose de les poser après. Et je vais juste aborder le dernier exemple que je voulais aborder, qui est plutôt celui... Mais alors, pour le coup, on est limité par les renseignements et les travaux des historiens qui manquent sur ces questions, mais qui est une question bien entendu fondamentale. C'est la question des rencontres entre les sociétés, enfin entre les Algériens et Européens dans l'intimité de la famille, les questions de métissage, les questions de mariage mixte, etc., etc. Donc, je veux quand même l'aborder, même si on manque un peu de matériaux, mais il y a quand même cette idée que dans un système colonial, la famille est au fondement de l'ordre politique et social, et que l'État colonial va essayer de réglementer et de limiter les métissages et la mixité entre les groupes sociaux, si vous voulez. Parce que ça met en péril son fonctionnement, si vous voulez. Parce que, en fait, la famille mixte, ça brouille la hiérarchie coloniale, ça brouille les statuts bien définis que l'État avait pourtant essayé de clarifier au mieux possible. Donc, ce qu'on peut simplement dire, peut-être, c'est que... Vous avez, en fait, en 1877, pour une année, sur 2500 mariages qui sont contractés cette année-là, seulement 8 mariages mixtes entre un ou une européenne et un ou une algérienne. C'est extrêmement peu. Il y en a pendant toute la période coloniale, hein, mais pour une année où on a fait le décompte, c'est vraiment minime. Et ce qui reste la règle, c'est l'endogamie ethnico-raciale, si on veut dire ça. Mais d'une part, parce que l'administration coloniale ne le veut pas, et aussi parce qu'il y a des barrières religieuses. C'est-à-dire que des barrières religieuses qui existent et qui en même temps sont transgressées, donc c'est pas non plus un interdit complet. Alors l'interdit, il est plus fort dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire que l'islam interdit à une musulmane d'épouser un non-musulman, donc d'épouser un chrétien ou un juif, alors que théoriquement, lorsqu'on est musulman, on peut épouser un juif, non. Une juive ou une chrétienne. Du coup, c'est un tabou, c'est un interdit qui vaut. Et en même temps, il y a quand même des mariages avec deux musulmanes avec des chrétiens ou des juifs. Ça existe, donc c'est pas non plus... la transgression est possible. De l'autre côté, il y a aussi, du point de vue de l'État colonial, ce coup-ci, pas du point de vue des familles musulmanes, mais du point de vue de l'État colonial, il y a aussi la difficulté, parce qu'il y a un déséquilibre, si vous voulez, du sexe ratio. Le sexe ratio, c'est le rapport, enfin la proportion entre d'hommes et de femmes, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup moins de femmes européennes, au moins au début de la colonisation, que d'hommes européens, parce que le début de la colonisation, c'est une conquête de militaires, de fonctionnaires, et les femmes sont assez peu nombreuses. Par exemple, dans la ville de Bonn, qui s'appelle aujourd'hui Annaba, dans les années 1840-1860, vous avez deux fois plus d'hommes que de femmes européennes. Donc il y a aussi un déséquilibre à gérer, et que l'État colonial gère en partie en mettant en place un système de prostitution extrêmement réglementé, extrêmement contrôlé, mais je me souviens plus, mais je crois que c'est quelques jours, enfin c'est en 1830 qu'est mis en place un service de prostitution, parce qu'il y a cette peur de l'État colonial d'une contagion qui dans les archives est liée aux maladies vénériennes, mais qui est aussi simplement la peur des mélanges des gens, en fait. Hein. C'est très bien expliqué par Christelle Tarot, qui a fait tout un livre sur la prostitution coloniale, et bon, je me répète, mais là aussi, elle a résumé ça en 5 pages dans ce livre, donc c'est assez clair. Mais c'est vraiment cette idée que voilà, l'absence des Européennes sur le territoire algérien, ou la pénurie d'Européennes, pose la question des couples mixtes et des rapports intimes entre Algériens, Européens et Algériennes, en l'occurrence. Donc, il y a des maisons de tolérance qui sont mises en place, par exemple, dans l'Algérie, où la plupart du temps, ce sont des prostituées européennes qu'on fait venir ou qui viennent et qui exercent dans des maisons de tolérance. Pour les prostituées indigènes, on met même en place des quartiers réservés qui sont en fait uniquement avec des prostituées indigènes, entre guillemets, mais bon, et qui permettent en fait, enfin, qui sont des lieux identifiés dans l'espace. D'ailleurs, c'est vécu très douloureusement par les populations. On met en place la même chose au Maroc et en Tunisie, mais c'est vécu douloureusement par les populations, et à l'indépendance, c'est des choses qu'on supprime tout de suite parce que en plus du fait qu'on a réglementé et séparé les groupes, il y a aussi un tabou du monde arabo-musulman qui est ici brisé, puisqu'on crée carrément des quartiers qui sont visibles et qui sont et qui rendent publiques et visibles dans la société algérienne des choses qui ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prostitution avant, hein, je ne dis pas ça, mais justement elle était cachée, enfin elle n'était pas posée comme ça au milieu de l'espace public. Voilà. Je pense juste que ce que j'ai voulu montrer là, peut-être ce soir, c'était à la fois essayer de montrer l'extrême complexité de cette société algérienne qui peut pas être réduite à la confrontation de deux groupes figés et même, je pense que, enfin, qui évoluent et qui sont eux-mêmes hiérarchisés en leur sein. Et alors, j'ai utilisé plusieurs fois le mot de rencontre et je suis pas non plus très à l'aise avec ce terme. C'est assez difficile, il y a des hésitations, mais le terme de rencontre au début devait pouvoir exprimer quelque chose de l'ordre de la confrontation, et à mesure que les historiens l'ont utilisé, ça a eu tendance à être euphémisé, à sous-entendre quelque chose de l'ordre de la rencontre culturelle ou de la... Enfin, ça a en partie euphémisé le rapport de domination, et c'était pas du tout, j'espère que vous l'avez compris, l'objet de mon propos ce soir, puisque à chaque fois que j'ai essayé de montrer qu'il y avait des espaces potentiels de la rencontre, ces espaces recréés de fait, du fait des barrières juridiques, du fait d'un certain nombre de barrières, ces espaces de rencontres potentielles recréent en permanence des clivages et des inégalités. Donc, j'espère que vous avez saisi cette nuance, mais c'est vrai que c'est difficile de travailler sur ces questions qui, en plus, sont problématiques du point de vue des archives. Mais je suis preneuse si vous avez des questions. Merci beaucoup.